Il est 13h. Le journal avec Africa Gordillo.
Bonjour, une centaine d'habitants évacués d'un immeuble à appartement à Molenbeek. Une voiture a pris feu dans le parking souterrain. Vincent Kompany crée la surprise et l'enthousiasme des amateurs de ballon rond. Il quitte Manchester City et rejoint Anderlecht pour 3 ans. Kompany sera joueur, manager. Qu'est-ce que ça signifie? Les précisions dans un instant. Boeing reconnaît pour la première fois des défauts dans les simulateurs de ses 737 MAX. Il s'agit de ces avions cloués au sol depuis 2 crashs en Éthiopie et en Indonésie. Le logiciel qui permet d'éviter les décrochages présente des défauts. Une grosse frayeur pour les habitants d'un immeuble à appartement à Molenbeek, mais ils sont tous sains et saufs. Une voiture a pris feu dans le parking souterrain. Le bâtiment a été évacué. Le plan catastrophe communale déclenché, Patrick Michel.
L'intervention rapide des services de secours a permis d'évacuer tous les habitants de 2 immeubles, près d'une centaine de personnes au total. Parmi les évacués, Rachid Ragoued, il a pu quitter son immeuble avec ses 2 enfants.
Au balcon, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'il faut sortir. Moi, je croyais que c'est l'odeur du gaz, une fuite du gaz. Les femmes et tout ça, les vieux, on était au métro Seguin, dans une petite salle là-bas. Après, nous avons demandé d'y aller là-bas, à côté du stadium.
Les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie assez rapidement. Walter Dorin, porte-parole du SAMU de Bruxelles.
Le feu était relativement vite sous contrôle, mais suite au dégagement de fumée, l'officier responsable a décidé d'évacuer les 2 bâtiments. Donc l'officier va vérifier maintenant, étage par étage, la présence de fumée ou de CO. Et normalement, dans 1 heure, les habitants vont pouvoir regagner leur logement.
Pour évacuer les fumées, les services de secours ont utilisé un puissant ventilateur. Au terme des opérations, aucun blessé n'est à déplorer.
C'est l'information surprise du jour. Elle est sportive. Vincent Kompany a annoncé son départ de Manchester City. Après 11 ans de bons et loyaux services, Kompany quitte donc le nord de l'Angleterre pour une destination qu'il connaît bien, le Sporting d'Anderlecht, Thomas van der Linden.
Vincent Kompany est de retour au Sporting d'Anderlecht. L'information a de quoi faire rêver les fans bruxellois, mais elle est pourtant bien vraie. 13 ans après son départ du club de la capitale où il a été formé, Vince De Prins a annoncé ce midi sur les réseaux sociaux son retour dans son club formateur. Kompany a signé un contrat de 3 ans dans un rôle un peu fou de player-manager, soit littéralement joueur-entraîneur. Dans une vidéo explicative, Michael Verskuren, le directeur sportif du club bruxellois, explique que Vincent Kompany décidera bien des tactiques comme un réel entraîneur, mais il pourra également évoluer en tant que joueur. C'est donc un rôle totalement inédit et un peu surprenant, mais le retour aux sources de Vince De Prins dans la capitale belge reste néanmoins un très joli coup pour l'image et le projet de la nouvelle direction mauve au crépuscule d'une des pires saisons de l'histoire du club.
Merci Thomas. Valentin Poncelet remporte la 40e édition des 20 km de Bruxelles. Il a franchi la ligne d'arrivée après 1h34 de course. Chez les dames, c'est Alexandra Tondeur qui remporte le 20 km en 1h13. Une 2e victoire en 2 années de suite pour Alexandra Tondeur. 40 000 coureurs étaient inscrits à cette course qui est bien sûr sportive, mais aussi festive et populaire. Thibaut Deplanque et Arnaud Vernier l'ont suivi pour nous.
Le cinquantenaire était noir de monde et parmi la foule de nombreux habitués, mais aussi quelques néophytes. C'est le cas de Mehdi qui participait pour la première fois aux 20 km de Bruxelles.
J'ai vraiment aimé tout le long du parcours, il y a une super ambiance. On se sent porté par les gens et tout. Les conditions aujourd'hui météo étaient au top. Et ouais, non, à refaire, c'était ma première, je viens de Chimay. Et l'année prochaine, on remet ça, hein.
Chacun s'élance avec un objectif qui lui est propre, mais 60% des participants courent pour une œuvre caritative, comme Johan Wallem, l'entraîneur de l'équipe nationale belge espoir de football.
C'est pour Jean-François Lanvin, quand on connaît tout ce qu'il fait et l'importance qu'il accorde à cela, je crois que c'est la moindre chose que nous, en tant que sportifs, que l'on participe aussi à ce genre d'action.
Cette année, les 20 km fêtaient leurs 40 ans et au fil des décennies, l'événement est devenu l'une des courses les plus populaires du pays. Pour Sébastien, l'ambiance y est pour beaucoup.
Ici, j'avoue qu'en arrivant sur Other Game, jambes coupées, mais côté de ça, il y a des gens tout le temps, de l'ambiance sur tout le parcours, donc génial.
La 41e édition des 20 km de Bruxelles est déjà dans les cartons. Elle aura lieu le 31 mai 2020.
qu'on se le dise. Un mois encore des championnats de Belgique de natation. Valentine Dumont a battu le record de Belgique du 100 mètres nage libre ce matin à Anvers avec un chrono de 55 secondes 43. La jeune Namuroise de 18 ans détient désormais les records de Belgique du 100 mètres nage libre, du 200 mètres libre et du 400 mètres libre. Il est 13h05. Boeing reconnaît pour la première fois des défauts dans les simulateurs de ses 737 MAX. Les avions 737 MAX du constructeur américain sont cloués au sol depuis les deux crashs en Éthiopie et en Indonésie. Des accidents qui ont fait 346 morts. François Corbiot, Boeing admet donc que ces simulateurs de vol ne pouvaient pas reproduire certaines conditions de vol.
Oui, pour être précis, c'est un logiciel qui doit permettre aux pilotes de se former au maniement des 737 MAX et de se familiariser avec un système sans séparer les décrochages de l'appareil. Boeing reconnaît aujourd'hui dans un courriel que ce logiciel souffrait de défauts. Les pilotes à l'entraînement ne pouvaient donc pas appréhender toutes les spécificités de l'appareil ni tester son comportement dans toutes les conditions de vol. L'entreprise américaine n'a pas précisé la date à laquelle elle s'est aperçue de ces problèmes, mais elle annonce aujourd'hui avoir résolu ce problème de conception.
Alors si les problèmes de logiciel ont été réglés, il reste encore la question de la formation des pilotes, François.
Oui, la question est importante, hein, puisque c'est de cela que dépendra la reprise des vols de cet avion. Elle sera sans aucun doute au centre des discussions des régulateurs aériens qui auront lieu la semaine prochaine aux États-Unis. En attendant, Boeing annonce travailler activement avec les régulateurs sur la formation des pilotes. Je vous rappelle que le 737 MAX est le modèle le plus vendu de Boeing et qu'ils sont tous cloués au sol depuis la mi-mars.
Les explications de François Corbiot. Dernier jour de vote ce dimanche en Inde. 900 millions d'électeurs sont appelés à renouveler la chambre basse du Parlement. Cette campagne, la campagne électorale en Inde, a été dominée par deux thèmes, la sécurité nationale et la promotion de l'hindouisme. Des thèmes mis en avant par le parti nationaliste hindou, le BJP, qui cherche à conquérir un deuxième mandat. Les nationalistes hindous sont donnés grands favoris, ce qui inquiète la minorité musulmane, comme l'a constaté notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi.
Une petite table, quelques outils et un parasol pour le protéger d'un soleil féroce. Salim Houdin possède un petit atelier de fabrication de clés sur le marché de Ghaziabad, une ville de la banlieue de New Delhi et bastion du BJP. Ce musulman de 52 ans a vu ses relations avec les hindous se détériorer sous ce gouvernement des nationalistes hindous.
Récemment, un client me demande de venir travailler chez lui, mais il exige que j'enlève d'abord ma calotte musulmane car sa grand-mère serait allergique à ces calottes. Je lui dis que c'est impossible, aujourd'hui c'est la calotte, demain c'est la barbe et après quoi? Depuis 5 ans, ce genre de discrimination a fortement augmenté.
Pendant la campagne, le BJP a répété que les musulmans devaient adopter les valeurs hindoues ou partir vivre au Pakistan. Salim Houdin s'inquiète.
Je suis né et j'ai grandi en Inde. Je mange indien, je m'habille avec du coton indien. Je n'ai rien à voir avec le Pakistan. Pourquoi les gens parlent ainsi? Et qu'est-ce que j'irai faire au Pakistan?
Le BJP pourrait n'obtenir qu'une majorité relative au Parlement. Il devrait alors s'allier avec des partis régionaux, ce qui pourrait le forcer à atténuer sa politique hindouiste.
Retour chez nous, c'est la journée chantier ouvert ce dimanche. L'occasion pour le public de voir ce qui se passe sur pas moins de 135 chantiers. Exemple, à Namur, vous pouvez découvrir la reconstruction du pavillon belge qui a été présenté à l'exposition universelle de Milan, c'était en 2015. Il a été réalisé par l'architecte namurois Patrick Genard. La capitale wallonne a voulu le réinstaller sur l'esplanade de la citadelle. Il sera entièrement dédié au numérique. Jean-Claude Hénus s'est lui aussi rendu sur ce chantier.
Là, vous avez aussi les montages de la structure et le bétonnage de la dalle du couvrant sous-sol.
Historique du chantier, aspect technique, parcours de la visite. Ce dimanche, les chefs de chantier sont les guides des visiteurs d'un jour. François Guillot, chef de projet.
C'est une journée par an, leur donner un petit peu plus de détails, un avant-goût de ce qui est notre quotidien, des difficultés qu'on rencontre.
Étienne Lambillotte, directeur général d'une des entreprises chargées du chantier.
Pour nous, c'est déjà une fierté de pouvoir montrer notre savoir-faire. Et donc, c'est le meilleur moyen d'avoir le plus de détails parce qu'au quotidien, c'est sûr qu'au vu des formes atypiques du chantier, ça peut prêter à confusion et interpeller beaucoup de personnes.
Composé d'acier, de béton, de bois et de verre, le bâtiment aura des allures futuristes. Après avoir servi de pavillon belge à l'Expo universelle de Milan, il s'implante définitivement sur les hauteurs de Namur. Carole De Clercq, responsable du pavillon dédié cette fois au numérique.
Un lieu permanent d'exposition et d'expérimentation autour des cultures digitales et créatives. Et donc on est là aussi pour pouvoir un peu expliquer ce qu'on compte y faire. Et voilà.
Une journée chantier ouvert qui répond aux questions des visiteurs.
Les difficultés techniques entre les normes italiennes et les normes belges, parfois simplement une prise de courant qui n'est pas la même, ça nécessite beaucoup de transformations.
On vient voir ce qui se passe, quels seront les résultats et les bénéfices pour la population finalement.
Le pavillon du numérique sera inauguré début 2020, si tout va bien.
C'est aussi le deuxième jour de la Saint-Roch ce dimanche à Thuin. C'est l'une des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. La statue de Saint-Roch est sortie ce matin de l'église où elle repose. Et les marcheurs doivent affronter la pluie et le ciel plombé ce dimanche. Mathieu Van Winkel a constaté que la météo ne pouvait de toute façon pas les arrêter.
Rassemblement des troupes dans l'église Notre-Dame d'Elvaux pour la descente de Saint-Roch. Sous une pluie fine qui n'annonce rien de bon pour la journée, mais ça n'arrêtera pas les marcheurs.
Ah non, surtout pas. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. On peut faire mieux le soleil, ça c'est certain. Ça. Mais non, ça c'est impossible. Ça.
Mais donc les nuages là au-dessus de nous, ça vous fait pas peur?
Non. De toute façon, on est équipés. On a nos vêtements de pluie pour le cas où il doucherait vraiment.
Parce qu'il faut un peu protéger tous ces costumes.
Ben oui, parce qu'un costume, bon, c'est quand même plus de 500 euros quand même.
Madame, bonjour, j'ai une petite question.
Je vous écoute.
Est-ce que la pluie serait capable de faire arrêter un marcheur?
Absolument pas. Mais par contre, les petites gouttes.
T'en as d'autres qui sont là.
Ah,
les petites gouttes, qu'est-ce que c'est que ça?
Les petites gouttes, les petits péquets. C'est dommage qu'il n'y a pas de cantinière, sinon je vous en aurais offert. Les petites gouttes, ça, c'est plus dangereux.
Ça pourrait arrêter un marcheur.
Ça pourrait arrêter un marcheur.
Ouais, confirmation, en goûtant la petite goutte, effectivement, faut pas en prendre trop. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ici aujourd'hui? Les gouttes qui viennent du ciel ou les gouttes qui viennent de la cantinière?
Celles de la cantinière, bien sûr.
Parce que celles du ciel, vous arrêteront pas?
Non, ça n'en risque pas grand-chose.
Et vu le moral d'une partie de la troupe, effectivement, les gouttes commencent déjà à faire des dégâts. La pluie, elle, n'arrêtera personne.
Le reportage à Thuin de Mathieu Van Winkel. Bel après-midi à notre écoute.
Retrouvez toute l'info sur rtbf.be.
Oui, sans plus attendre, sur la première, on retrouve Michel Dufrasne et Dieu dans tout ça.
Oui, merci à vous. Le prochain rendez-vous avec l'info est à 14h sur la première. Non, madame, je suis formel, vous êtes philosophe. Voici le verdict du procès d'Amélie Nothomb que vous mettez en scène dans votre fiction philosophique, Ainsi philosophait Amélie Nothomb. Bonjour Marianne Chaillon.
Bonjour.
Bienvenue dans Et Dieu dans tout ça.
La première,
13h15, 14h le dimanche,
Et Dieu dans tout ça,
Michel Dufrasne.
La philosophie, incompréhensible, trop théorique, trop distant du quotidien des citoyens. Et s'il était possible d'inscrire les grands noms de la philosophie et leurs idées dans notre actualité, dans notre pop culture? Et s'il était jubilatoire et éclairant de découvrir certaines œuvres contemporaines, qu'elles soient littéraires, musicales, cinématographiques ou télévisuelles, à la lumière des grands penseurs? C'est le défi que s'est lancé notre invité en relisant et reliant Harry Potter, Game of Thrones ou les romans d'Amélie Nothomb aux concepts développés par Spinoza, Hegel, Sartre ou Nietzsche. Marianne Chaillan est avec nous dans un studio de Radio France à Aix-en-Provence. À 13h50, nous ouvrirons notre grand dictionnaire des philosophies et des religions. Aujourd'hui, Pascal Claude recevra Martin Legros. Soyez les bienvenus dans Et Dieu dans tout ça.
Le magazine des philosophies et des religions, sur la première.
Marianne Chaillan, vous publiez chez Albin Michel, Ainsi philosophait Amélie Nothomb. Vous êtes chargée de cours à l'université d'Aix-Marseille, vous enseignez également la philosophie au lycée. Vous avez entre autres publié Harry Potter à l'école de la philosophie, Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, ou Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser? Marianne Chaillan, pourquoi tenter de lier des produits culturels populaires à la philosophie?
Cette démarche relève de ce que j'appelle la pop philosophie, dont la finalité est double, en quelque sorte. Il s'agit d'une part de promouvoir les objets de la culture populaire dont on peut penser à tort qu'ils sont d'une moindre consistance intellectuelle. Donc promouvoir ces objets-là, qui nous divertissent, qui nous accompagnent, et vis-à-vis desquels on est parfois ingrat en les méprisant, d'une certaine manière. Et d'autre part, ce à quoi je m'évertue, c'est de rendre accessible justement cette philosophie dont vous disiez est-elle trop théorique, est-elle trop distante, et de montrer que justement la philosophie n'est pas réservée à quelques vieillards en toge ayant vécu il y a quelques siècles, qui diraient des choses qui n'ont plus rien à nous apprendre, et de montrer donc que la philosophie est intempestive, elle continue d'être opportune aujourd'hui, elle peut nous parler et de montrer aussi que la culture populaire vaut plus que le crédit dans lequel on la tient injustement.
Récemment, au Salon du Livre de Genève, Laurent de Sutter disait « La pop philosophie est la pratique philosophique de transformation de n'importe quoi en quelque chose ».
Alors, ce qui me gêne là-dedans, même si je comprends ce qu'il veut dire, c'est le n'importe quoi. Parce que justement, ça réinscrirait cette idée que la culture populaire, c'est du n'importe quoi. Il est vrai, donc, un geste de, sinon de transformation, je dirais de dévoilement, en tout cas. De dévoilement de la richesse, parfois méconnue, parfois difficile à saisir, au premier regard, qui se trouve dans des objets de la culture dite populaire, comme la saga de J.K. Rowling, Harry Potter. Comment soupçonner qu'en allant à Poudlard, on s'initie à la philosophie platonicienne, par exemple? Et pourtant, c'est un fait. Comment soupçonner qu'en regardant Game of Thrones, on fasse de la philosophie morale? C'est aussi le cas. Et que dire d'Amélie Nothomb, qui nous réjouit, qui nous distrait à travers ses livres, et qui, c'est le pari de mon livre, tout autant qu'elle nous distrait, nous fait philosopher.
Justement, à propos d'Amélie Nothomb, elle dit dans les Catilinaires, on ne sait rien de soi, on croit s'habituer à être soi, c'est le contraire. Plus les années passent et moins on comprend qui est cette personne au nom de laquelle on dit et fait les choses. Alors quand on se penche en tant que philosophe dans une démarche de pop philo, comme vous dites, est-ce qu'on est en train de révéler aux auteurs ce qu'ils sont vraiment, voire révéler aux auteurs ce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient fait ?
Je n'aurais pas la prétention d'apprendre à Amélie Nothomb quoi que ce soit sur elle-même, mais dans le livre, je cite cette phrase des Catilinaires, c'est vrai, et je cite aussi cette théorie d'Umberto Eco selon laquelle il y a trois intentions à l'œuvre, dans l'œuvre: l'intention de l'auteur, ce qu'Amélie Nothomb a conscience de vouloir dire, l'intention du lecteur, ça c'est l'interprétation qu'un lecteur fait de son œuvre et qui n'est pas forcément ce qu'elle-même a souhaité dire, et puis une sorte d'intention de l'œuvre elle-même, comme si à l'insu même de l'auteur, l'œuvre engendrait des pistes de lecture. Ce que je propose dans mes ouvrages, que ce soit celui sur Game of Thrones qui relie donc l'œuvre de George Martin, dans celui sur Harry Potter qui relie la saga de J.K. Rowling, ou là, dans Ainsi philosophie Amélie Nothomb, dans lequel je propose une relecture de ses œuvres, c'est avant toute chose, ce que je projette, ce sont mes intentions de lecteur. Je n'ai pas la prétention d'avoir saisi les intentions de l'auteur. Il se trouve que peut-être elles coïncident, ce que je souhaite, mais je n'en sais rien en définitive.
On connaît Amélie Nothomb pour son intelligence, mais aussi pour le fait qu'elle est quand même assez joueuse et qu'elle aime jouer avec ses lecteurs. Elle affirmait, lors d'une émission française consacrée à la littérature, croire au destin mais ne pas croire aux prophéties. Est-ce qu'elle adopte une position d'auteur ou est-ce que là, elle vous met déjà sur une voie en vous disant « Voilà, cher lecteur, préparez-vous à philosopher ».
Justement, cette contradiction, du moins ce qui apparaît comme une contradiction, il me semble que c'est dans la grande librairie qu'elle a dit ça,
tout
en
fait,
présentant
oui.
Son livre Le crime du comte Neuville.
Exactement.
Qui effectivement démarre par une prophétie qui est faite au héros, le comte Neuville, on lui annonce quelque chose, et Amélie Nothomb dit à la fois, ce qui paraît être un paradoxe, je crois au destin, je ne crois pas aux prophéties. Et dans mon livre, qui n'est pas un essai classique de philosophie, je rassure en quelque sorte vos auditeurs.
C'est une forme de roman à la façon d'Amélie Nothomb, qui d'un procès intenté au paradis à Amélie Nothomb décédée. Sera-t-elle autrice ou sera-t-elle philosophe?
Voilà, il faut expliquer que j'ai écrit ce livre parce que je suis une lectrice d'Amélie Nothomb avant toute chose. Je suis aussi donc professeure de philosophie et j'écris des ouvrages de pop philosophie, donc j'ai essayé d'expliquer un peu ici l'ambition. Et je me suis demandé quel type de livre était susceptible d'intéresser les lecteurs d'Amélie Nothomb, dont je suis. Et moi-même qui ai le goût de la philosophie et qui ai le goût d'Amélie Nothomb, je crois pas que j'aurais lu un essai académique sur elle. Et j'ai voulu du coup écrire un livre qui, modestement, offre un plaisir analogue, moindre sans doute, mais un plaisir analogue à celui que nous avons, nous lecteurs d'Amélie Nothomb, lorsque nous la lisons. Et du coup, j'ai écrit un livre à la manière d'Amélie Nothomb, un récit court, vif, j'espère, mais dont Amélie Nothomb est elle-même l'héroïne. Et effectivement, elle meurt, elle se retrouve au paradis. On lui apprend qu'au paradis, eh bien, nous rejoignons nos pères. Elle s'attend donc à retrouver le paradis des écrivains de littérature. Et au moment où on l'affecte, là où elle doit vivre pour l'éternité, on l'affecte au paradis des philosophes. Elle pense que c'est une erreur de casting. Et donc, elle signale cette erreur. S'ensuit un procès. Et lors de ce procès, je reviens à votre question initiale, un philosophe qui s'appelle Sartre intervient en compagnie de Cicéron et de Spinoza, ils sont trois, pour analyser le crime du comte Neuville et trois pour donner une explication philosophique à ce paradoxe apparent de la pensée d'Amélie Nothomb, elle qui dit à la fois croire au destin et ne pas croire aux prophéties. Et c'est donc Spinoza qui, dans mon livre, et là, se trouve là, présent, au procès d'Amélie Nothomb, pour expliquer que peut-être cette phrase est moins paradoxale qu'il n'y paraît, et que lorsqu'Amélie Nothomb dit croire au destin, elle se placerait peut-être dans une perspective naturaliste, à la Zola, c'est-à-dire qu'elle prétendrait dévoiler des mécanismes à l'œuvre dans les actions humaines, sans pour autant croire aux prophéties qui, elles, nous renverraient vers une forme de fatalisme, ce qui n'est pas tout à fait pareil. L'idée que le futur soit déjà écrit, ça c'est le fatalisme. Et l'idée que, lorsque les actions ont lieu, elles obéissent à une certaine causalité souterraine. Ça, c'est plutôt le naturalisme. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai essayé de résoudre. Ça a l'air théorique dans le livre. C'est, je l'espère, très clair et très accessible.
C'est très clair, mais c'est intéressant, parce que vous prenez peut-être des libertés, enfin, vous projetez votre passion de lectrice sur Amélie Nothomb, mais dès qu'il s'agit de parler de Spinoza, là, par contre, la prof de philo revient.
Oui, qui est d'ailleurs, je l'espère, tout autant passionnée par les auteurs dont elle parle. Mais vous avez raison de dire que je projette une passion de lectrice. Le plaisir que j'ai m'a inspiré cette œuvre, c'est vrai, et j'essaie de faire dialoguer. Parce que je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais pour Amélie Nothomb, comme pour les œuvres de pop culture qu'on a citées précédemment et auxquelles j'ai consacré des livres, j'ai l'impression qu'Amélie Nothomb est un écrivain très heureux, qui a énormément de succès, qui est très lu, mais qui parfois, c'est peut-être le revers de la médaille, dont les œuvres passent à tort pour de la littérature de grande consommation. Et en tant que lectrice aimant les livres d'Amélie Nothomb, j'ai voulu, par mon livre, essayer de rendre justice aux siens en dévoilant la lecture vraiment profonde et philosophique qu'on peut en faire.
Concernant les livres d'Amélie Nothomb, on ne peut pas faire l'impasse d'un livre qui a un titre qui sent déjà la philosophie, hein, la métaphysique des tubes. Je vous propose un petit extrait de lecture.
Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague, il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde, il n'eût créé quoi que ce fût, le rien faisait mieux que lui convenir, il le comblait. Dieu avait les yeux perpétuellement ouverts et fixes. S'ils avaient été fermés, cela n'eût rien changé. Il n'y avait rien à voir, et Dieu ne regardait rien. Il était plein et dense comme un œuf dur, dont il avait aussi la rondeur et l'immobilité. Dieu était l'absolue satisfaction. Il ne voulait rien, n'attendait rien, ne percevait rien, ne refusait rien et ne s'intéressait à rien. La vie était à ce point plénitude qu'elle n'était pas la vie. Dieu ne vivait pas, il existait.
Là, effectivement, on sent bien que ce n'est pas du roman facile ou du roman trop populaire, bien qu'il soit populaire. Et vous, la philosophe, quel regard portez-vous sur cette métaphysique des tubes ?
Alors, puisque vous avez choisi cet extrait, d'abord je rappelle à vos auditeurs, enfin l'un des multiples cadeaux qui m'a été fait à l'occasion de ce livre, à savoir que Raphaël Intoven a consacré à ce texte précisément que vous avez lu la préface de mon ouvrage. C'est-à-dire mon ouvrage est préfacé par un très beau texte de Raphaël Intoven consacré précisément à l'explication de cette page. Moi aussi, j'ai évidemment consacré un chapitre à la métaphysique des tubes en général, et donc j'ai expliqué que mon livre consiste en un procès, donc qui a lieu, procès au cours duquel il va s'agir de déterminer si c'est à tort ou à raison qu'on a affecté Amélie Nothomb au paradis des philosophes.
Et dans ce cas-ci, vous appelez Heidegger, c'est ça ?
Voilà, et pour parler de métaphysique des tubes, qui se présente devant la cour et Amélie Nothomb, Martin Heidegger, l'auteur de Être et temps, qui explique aux auditeurs et à Amélie Nothomb elle-même que, au fond, on a le choix, soit de lire Être et temps, soit de lire Métaphysique des tubes, car au fond, ces deux ouvrages nous dévoilent une leçon de philosophie commune. Laquelle, en l'occurrence, que la certitude du devoir mourir est le fondement de la certitude que l'existant a de lui-même. Alors là, c'est peut-être un peu compliqué. Je dirais que dans ce livre, on a en quelque sorte le cogito d'Amélie Nothomb. Et c'est plus « je pense, donc je suis », mais c'est « je meurs, donc je suis ». C'est l'idée que la finitude, l'être pour la mort, l'acceptation de la mort est la condition même qui fait qu'on devient un sujet humain existant. Si vos auditeurs se rappellent de Métaphysique des tubes, on se rappelle ces premières pages où la jeune Amélie, qui vient à peine de naître, se désigne elle-même comme la plante. Elle n'accepte pas encore d'être née, et elle d'ailleurs ne va naître que 2 ans et demi après sa naissance biologique, sous l'effet d'une barre de chocolat que lui tend sa grand-mère, sous l'effet de ce plaisir qui lui fait assumer d'être née. Donc il y a cette naissance sous l'effet du plaisir, qui est ensuite suivie d'une désillusion terrible. Amélie Nothomb comprend très vite, comme Schopenhauer, un auteur qu'elle cite d'ailleurs pas mal dans ses livres, que vraiment la vie est une affaire qui ne couvre pas ses frais, qu'on va aller de déception en déception dans la vie. Et tout le reste du livre nous montre une jeune Amélie qui, à peine vivante, va devoir accepter le corollaire de la vie, à savoir la mort, la finitude. Et ça va se passer d'abord par l'épreuve de la perte, du deuil, en quittant le Japon, en quittant sa Nishio-san, en quittant ces paysages japonais qui lui sont si chers. Amélie Nothomb fait l'épreuve de la perte, du deuil, et découvre, pour finir, face à un bassin de carpes, cette loi terrible de l'existence humaine, tube tu es et tube tu redeviendras, cette métaphysique des tubes qui est une loi inhérente à la vie, une loi de la finitude humaine. Nous sommes des êtres pour la mort, et ce n'est que lorsque nous l'acceptons pleinement que nous sommes enfin véritablement vivants. Ce livre, selon moi, selon la lecture que j'en fais, raconte la naissance d'un sujet humain dans l'assomption de cette certitude du devoir mourir.
Merci Marianne Chaillon, vous êtes toujours l'invitée de Et Dieu dans tout ça. Alors je vous propose une petite pause musicale qui n'est pas choisie au hasard, puisque nous allons entendre Alain Souchon et son Foule sentimentale.
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale. Soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors. Par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lousou. cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
Merci d'être avec nous, c'était Alain Souchon.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
Alors comme je disais, Marianne Chaillon, je n'ai pas choisi le morceau par hasard, puisque c'est un des titres qui figure dans votre ouvrage La playlist des philosophes. Alors comme on s'est livré au petit exercice pour Amélie Nothomb et sa métaphysique des tubes, Alain Souchon est-il philosophe et lui-même fait-il référence à Heidegger ?
Oui, je vois qu'il y avait une continuité avec Métaphysique des tubes, car là encore, chez Alain Souchon, ce qu'on trouve, c'est une leçon heideggerienne. Ça ne se voit pas trop, mais je vais essayer de vous le montrer. Au fond, j'imagine que chacun d'entre nous, vos auditeurs, vous et moi-même, nous croyons modestement, mais nous croyons être singuliers, nous croyons avoir une personnalité qui nous est propre, avoir nos propres idées, nos propres goûts. Enfin, j'imagine que chacun de vos auditeurs dirait « oui, j'espère ». Et ce que nous dit Alain Souchon dans la chanson que nous venons d'écouter, c'est qu'en fait, partout où l'on dit « je », se cache en vérité un « on ». C'est un « on », c'est « on nous inflige des désirs qui nous affligent ». Et quand on croit dire « je, j'aime cette chanson », en fait, c'est la chanson qu'on m'a conduit à aimer. Est-ce que vos auditeurs ne se surprennent pas parfois à dire, comme moi, en découvrant une chanson qui passe à la radio, on dit « oh, c'est ma chanson ». Phrase très surprenante que j'entends beaucoup chez mes élèves quand une chanson... C'est ma chanson. Alors, à chaque fois, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, quelle est donc leur chanson ? Et ce n'est jamais, hélas, une chanson originale. C'est toujours, malheureusement, la chanson à la mode, la chanson qui passe nuit et jour à la radio, la chanson, au fond, qu'on nous a conduit à aimer. Chanson que, peut-être d'ailleurs, la première fois qu'on l'a écoutée, on a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Je ne sais pas si vos auditeurs ont vécu ça, moi ça m'est arrivé. Mais qu'est-ce que évidemment. C'est que cette chanson Et puis j'entends une deuxième fois, je me dis « Tiens, mais qu'est-ce que c'est ça ?» Et puis j'entends une troisième « Ah oui !» Et la quatrième « Ah, oh, c'est ma chanson !» Et j'ai fini par aimer une chanson que peut-être au départ je n'aimais pas, mais que j'ai été conditionnée à aimer par ce que Heidegger appelle la dictature du « on ». Le « on », c'est cette masse anonyme, insaisissable, sournoise, des autres autour de nous, qui nous pousse à adhérer à des idées, à des goûts esthétiques, à des convictions, de manière imperceptible, dans une sorte de dépossession totale, dans une sorte d'existence inauthentique, où, croyant dire « je », en vérité, nous nous fondons dans une masse. Et c'est, je crois, la leçon d'Alain Souchon, qui dit que nous serions bien autre chose en vérité, nous serions des foules sentimentales qui espèrent vivre autre chose, mais qui sont déchues de cette capacité à exister singulièrement et se font entraîner dans une dictature du « on ».
Alors « on » reconnaît un autre grand titre chez Amélie Nothomb, qui est évidemment « Stupeur et tremblement ». Alors, petit extrait de la bande originelle du film d'Alain Corneau en 2003.
Voici comment j'ai voulu devenir une vraie japonaise. Yumimoto était l'une des plus grandes compagnies de l'univers. Obtenir un contrat d'un an comme interprète n'avait pas été une mince affaire. C'est Yojinde. N'importe qui à ma place eût démissionné. N'importe qui sauf un japonais. Petite, je voulais devenir Dieu. Puis, consciente de mon excès d'ambition, j'acceptais de faire martyr quand je serais grande. Mais il n'y avait pas de frein à ma foudroyante chute sociale. Je fus donc mutée au poste de rien du tout. Mais rien du tout, c'était encore trop bien pour moi.
Alors ici aussi, on évoque Dieu, on évoque le fait d'être petit, et pourtant, c'est plus du Heidegger, selon vous, mais c'est plutôt Hegel qui viendra parler de ce livre.
Oui, alors l'extrait montre bien cette chute, cette déchéance d'Amélie Nothomb dans cette entreprise. Ce livre, « Stupeur et tremblement », aurait pu s'appeler « Sisyphe aux enfers » d'une certaine manière. Et dans mon livre, c'est le philosophe Hegel qui vient essayer d'en proposer une lecture philosophique en disant qu'au fond, le cœur de ce livre, c'est une leçon sur l'importance d'autrui dans l'existence d'un sujet. Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, selon moi, dévoile cette loi fondamentale selon laquelle sans le regard d'autrui, sans autrui, je ne suis rien. Amélie Nothomb, selon moi, du moins le personnage d'Amélie dans le livre, vous vous rappelez cette lutte pour la reconnaissance qu'elle engage auprès de sa supérieure, Fubuki, supérieure qui va d'humiliation en humiliation, qui ne reconnaît pas du tout Amélie Nothomb, et subissant ce manque de reconnaissance, le sujet Amélie Nothomb s'effondre. Ce que nous explique Hegel, le véritable Hegel, et puis le Hegel de fiction que je fais intervenir au procès, c'est que les sujets humains, lorsqu'ils se rencontrent, cherchent dans le regard de l'autre la confirmation qui va les poser comme sujet. Et ce qu'Amélie espère, c'est que Fubuki la reconnaisse et s'adresse à elle, comme elle-même Amélie s'adresse à Fubuki, c'est-à-dire avec stupeur et tremblement. Ce que nous dit Hegel, c'est que c'est dans cette révérence, dans cette reconnaissance qu'autrui nous fait, que nous existons pleinement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais comment se termine le livre ? On croit qu'Amélie a échoué complètement à s'attirer la reconnaissance de Fubuki. Elle a terminé sa carrière là-bas d'une façon pas particulièrement brillante, quoi. Elle part, mais le roman se termine par la réception d'une lettre de Fubuki. Amélie Nothomb est rentrée en Europe. Elle a commencé à écrire. Et Fubuki lui écrit une lettre en japonais, ce qui est le signe absolu d'une reconnaissance. C'est une lettre de félicitations. Et voilà enfin donc le moment de reconnaissance réciproque. Amélie a reconnu la valeur de Fubuki. Fubuki reconnaît par cette lettre la valeur d'Amélie. Je le dis maladroitement, c'est délicat de mélanger la philosophie et la fiction dans l'espace radiophonique, mais du moins j'espère que si vos auditeurs me font l'honneur de lire le livre, ils comprendront, non pas que j'ai eu raison, moi, mais qu'Amélie Nothomb, elle, est profonde en écrivant ses romans.
Mais justement, ce stupeur et tremblement propose un choc de culture. Est-ce que la philosophie contemporaine n'est pas trop, je dirais, occidentalo-centrée ? Enfin, hormis les antiques, on est sur des auteurs occidentaux. Est-ce que la philosophie ne nécessiterait pas une plus grande ouverture, par exemple ?
Ça, vous mettez le doigt sur quelque chose qui m'a surprise moi-même durant mes études. Je ne sais pas si les choses ont changé aujourd'hui, je crains qu'elles n'aient pas beaucoup changé, mais vous avez tout à fait raison de dire que les études que nous faisons en philosophie, en tout cas celles que j'ai faites en France, étaient totalement européocentrées, totalement ignorantes de la profondeur et de la richesse des philosophies orientales dont nous n'avons rien appris dans le cursus traditionnel tel que je l'ai connu, mais qui peut-être depuis s'est ouvert en tout cas. Mais effectivement, c'est un regret qu'on peut faire, et il ne tient qu'à nous d'aller découvrir ces ouvrages qui auraient certainement beaucoup à nous apprendre.
Là, vous reconnaissez évidemment le générique de Game of Thrones, parce que vous avez écrit sur Game of Thrones une métaphysique des meurtres. Et je ferai un lien aussi avec votre autre ouvrage, Pensez-vous ce que vous croyez penser, puisque vous mettez en avant des concepts qui sont le minimalisme et le maximalisme, et la morale déontologique et la morale conséquentialiste. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement recadrer ces concepts, qui me semblent des concepts fort ancrés dans notre quotidien et dans les choix que nous faisons, ou du moins dans la façon dont nous comprenons le monde?
Oui, c'est vrai. Disons qu'en philosophie morale, si on reprend la métaphore de Game of Thrones, il y aurait comme deux continents, le continent de Westeros et le continent d'Essos. Le continent donc maximaliste et le continent minimaliste. Comment savoir à quelle philosophie morale nous appartenons ? Il suffit de répondre, même si ce n'est pas évident, à la question suivante : avons-nous des devoirs envers nous-mêmes ? J'essaye de traduire. Considérez-vous que ce que je fais à autrui et que ce que je me fais à moi-même, cela a la même importance morale. Je donne un exemple. Admettons que je vous saute dessus à l'instant et sans votre consentement, je vous coupe l'oreille. Bon, je crois que nous serions tous d'accord pour dire que cette action serait parfaitement immorale. Je n'ai pas votre consentement, je vous coupe l'oreille, c'est immoral. En revanche, imaginons que je sois venu moi-même à cette émission de radio et que vous vous étonniez que du sang coule sur ma tempe, et je vous dis « Hop, ben je me suis coupé l'oreille avant de venir ». Vous vous inquiéterez sans doute de ma santé mentale, peut-être, mais diriez-vous que ce geste est immoral ? Est-ce que vous placez sur le même plan l'action que l'on fait subir à autrui et l'action que l'on se fait subir à soi-même ? Si vous considérez que oui, alors vous êtes maximaliste, c'est-à-dire vous considérez qu'on a vis-à-vis de soi un certain nombre de devoirs, par exemple, ne pas négliger ses talents, ne pas se faire du mal, etc., etc. Ou alors, vous considérez qu'il y a une asymétrie morale et que le champ de la morale se restreint uniquement à ce que je fais subir à autrui. Ce que je me fais à moi-même n'a aucune importance morale dans la mesure où je suis consentant puisque je me le fais à moi-même. Donc cela peut relever de la bêtise, à la limite, mais ce n'est pas immoral. Si vous considérez cela, alors vous êtes minimaliste. Alors peut-être vos auditeurs se disent, bon très bien, j'ai compris si j'étais minimaliste ou maximaliste, mais quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que si l'on est minimaliste ou si l'on est maximaliste, ça va avoir des répercussions très fortes, si du moins on tente d'être cohérent, avec nos prises de position sur des sujets d'éthique appliqués. Par exemple, si on est minimaliste, et que donc l'on considère que ce que l'on se fait à soi-même n'a aucune importance morale, j'ajoute que lorsqu'on est minimaliste, on considère aussi que ce que deux adultes consentants se font entre eux n'a pas non plus d'importance morale. Alors, si vous êtes minimaliste, eh bien, il y a tout un certain nombre d'actions que vous ne jugez pas immorales, comme par exemple le fait de se prostituer, ce n'est pas immoral. Après tout, c'est ce que je me fais à moi-même. C'est moi-même que je prostitue, donc ce n'est pas immoral. Le suicide n'est pas immoral. L'euthanasie n'est pas immorale. Une relation contractuelle entre deux adultes, par exemple, je ne sais pas, pour une procréation médicalement assistée ou une gestation pour autrui, ce n'est pas immoral pour un minimaliste. Quand on est maximaliste, alors là, il y aura une difficulté encore à résoudre, car au sein du continent maximaliste, il y a deux familles. Et là, il faudra savoir si vous êtes un kantien, si ce qui compte pour vous, c'est l'intention à l'œuvre, dans l'action, pour déterminer sa valeur morale, ou si vous privilégiez les conséquences de l'action. Et c'est ce panorama des familles morales que j'essaye de dresser dans mon livre « Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?» J'essaye de dresser le panorama des éthiques possibles, car il n'y a pas une philosophie morale ou une éthique qui puisse prétendre prévaloir sur toutes les autres, mais il y a plusieurs éthiques et j'essaye de permettre au lecteur au fond d'en apprendre un peu plus sur lui-même, sur son système normatif, et puis ayant appris au fond quels sont ses principes moraux, d'essayer de les mettre en adéquation avec ses jugements sur des sujets d'éthique appliqués, sur les thèmes qu'on a évoqués par exemple, et puis enfin si possible, d'être bienveillant à l'égard des autres systèmes moraux et de comprendre que, ma foi, on peut avoir sa propre morale sans pour autant prétendre vouloir l'imposer à tous.
Mais pensez-vous que ce 21e siècle, avec tous les débats, l'information autour de ces débats sur les questions éthiques qui deviennent très hystériques, c'est un siècle de panique morale, d'hystérie morale ? Au contraire, ça a toujours été comme ça et on doit juste réapprendre à comprendre la morale de l'autre ?
Alors, l'expression de panique morale, justement, ça a été le titre d'un livre d'un philosophe qui s'appelle Ruvanogien. Il appelait un de ses livres La panique morale. Et Ruvanogien est le fondateur de la morale minimaliste. Je crains qu'il ait raison en décrivant par cette expression la façon dont les débats se mènent, en tout cas en France, sur les sujets d'éthique. Vous avez sans doute été témoin dans les médias des débats passionné autour du mariage pour tous en 2013.
Tout à fait.
Mais cela n'avait rien d'échange ouvert, rationnel. C'était des joutes oratoires mêlées de prédictions catastrophiques, d'injures. Bon, mais c'était déjà le cas en 1975 pour la loi Veil. C'était déjà le cas en 1965 quand Lucien Neuwirth a fait abroger la loi qui interdisait la pilule contraceptive. J'ai l'impression qu'en France, en tout cas, lorsqu'il s'agit de débats d'éthique, on est incapable d'appliquer un esprit rationnel, philosophique, un esprit éclairé, des lumières, mais qu'on cède à un catastrophisme, à une panique morale, à des débats passionnels qui sont non seulement contre-productifs, mais extrêmement violents et injurieux pour les gens qui sont concernés par les problématiques dont on parle. Et donc l'objet de mon livre, c'était d'essayer de réintroduire un peu de raison là-dedans, d'essayer de montrer que c'était très compliqué la morale et que c'était très ambitieux de prétendre avoir une opinion définitive parce qu'on est soi-même, et moi la première, parfois extrêmement déchirée dans nos intuitions éthiques. Ça va pas du tout de soi d'avoir des principes en concordance avec nos jugements. Voilà. Mais dans mon livre, j'essaye d'aborder toutes ces problématiques extrêmement sérieuses avec humour. Hein. Ça reste un livre de pop philosophie. Puisque, tout en parlant de ces questions sérieuses, je fais des références à la pop culture, j'applique cela dans des séries. Et donc, effectivement, par exemple, à la série Game of Thrones, qui pose des dilemmes moraux terribles à ses spectateurs.
Alors, maintenant, petite bouffée d'oxygène après tous ces choix moraux, avec une chanson, là aussi, pas du tout choisie au hasard. Maxime Le Forestier, Né quelque part. Alors très belle l'après-midi à tous. Et de dans tout ça, c'est jusqu'à 14h sur la première.
choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
C'était Maxime Le Forestier sur La Première.
La Première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Michel Dufresne.
Alors, même exercice que pour Alain Souchon, Maxime Le Forestier, disciple de Sartre.
Du moins en discussion avec Sartre. J'invite vos auditeurs à se poser la question suivante. Est-ce que vous seriez la même personne que celle que vous êtes aujourd'hui si vous étiez né dans la famille de votre voisin de palier ? Dur de répondre avec certitude, mais sans doute se dit-on que non, nous ne serions pas la même personne. Et justement, il me semble que c'est ce que dit la chanson de Maxime Le Forestier, c'est que nous sommes nés quelque part et que cette situation, comme dirait Sartre, c'est-à-dire ce contexte dans lequel on apparaît, contexte social, contexte psychologique, etc., ce contexte, alors, est-ce que ça constitue un destin ? Est-ce que notre situation, est-ce que être né quelque part, c'est déterminant ? Est-ce que ça constitue un destin ? Ou est-ce qu'on peut transcender cette situation, ce déterminisme, et écrire notre propre vie sans que cette vie n'ait été elle-même, au fond, d'une certaine manière, décidée en amont par cette situation-là ? Mmh. Il me semble que Maxime Le Forestier est dans un dialogue, là, d'une certaine manière, avec cette philosophie sartrienne de la liberté. Sartre ne croit pas du tout que le fait d'être né quelque part conditionne notre avenir. Et il me semble que la chanson de Maxime Le Forestier, lui, essaie de donner tout son poids à cet héritage de notre naissance. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Ce choix qui n'est pas un choix, qui nous est imposé, nous sommes jetés au monde dans un certain contexte qui, me semble-t-il, nous dit la chanson, ce contexte va avoir une influence sur notre vie. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ? C'est une question en tout cas, c'est un sujet de philosophie que nous a posé cette chanson. Est-ce que nos conditions d'apparition dans le monde ont dessiné pour nous à l'avance notre destin ou pas ?
Dernière question de notre rencontre, Marianne Chaillant. Dans les extraits d'Amélie Nothomb que nous avons lus, la référence à Dieu est omniprésente. Et pourtant, dans les philosophes dont nous parlons, j'ai l'impression que tous les philosophes sont athées. Alors peut-on être philosophe et croyant, ou ce sont des modes de pensée tout à fait opposés et impossibles à réconcilier ?
C'est une idée assez répandue, que cela serait deux choses incompatibles, que d'être philosophe et d'être croyant, mais c'est un préjugé, parce que beaucoup des philosophes sont croyants. Ceux dont on a parlé aujourd'hui, c'est vrai, ne le sont peut-être pas, mais énormément de philosophes, non seulement sont croyants, mais consacrent à la question de l'existence de Dieu des pages magnifiques. Il y a d'ailleurs un livre, si vos auditeurs ont envie de voir comment on peut à la fois allier la raison et la foi, il y a un très bon livre très accessible qui s'appelle « La question philosophique de l'existence de Dieu » qui a été écrit par mon professeur de Cagnes à l'époque, qui s'appelle Bernard Sèvres, au Presse universitaire de France. Et là, on peut voir à quel point l'histoire de la philosophie est traversée par la question de Dieu. Et nombreux sont les philosophes qui, d'ailleurs, cherchent des voies rationnelles pour prouver l'existence de Dieu. Mes élèves sont toujours surpris en cours, parce qu'on a au programme de philosophie, en terminale, en France, on a la religion. Et justement, le sujet que je traite avec mes élèves est le suivant, la foi exclut-elle l'usage de la raison ? Et du coup, je parle, à un moment donné du cours, des preuves que certains philosophes ont construit de l'existence de Dieu, des preuves rationnelles. Et ça peut paraître surprenant, mais il n'y a aucune antinomie entre la philosophie et la foi. Même si, par ailleurs, certains philosophes ont aussi écrit des pages extrêmement virulentes à l'égard de la foi.
De fait.
Alors là, on peut aller relire les lois contre le christianisme de Nietzsche, et c'est très 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 virulent. Donc non, tout est possible.
On peut faire le trio infernal, Spinoza, Freud, Nietzsche, et on aura une vision de la foi.
Tout à fait, effectivement, voilà, autre.
Et comment voyez-vous ce 21e siècle, hein ? Sera-t-il philosophique ? Sera-t-il religieux ? Ne sera-t-il pas ? Sera-t-il dans le doute ?
Vraiment, je n'ai pas du tout la prétention, par le peu de culture philosophique que j'ai, de pouvoir décrypter l'ère du temps. Il y a cette phrase de Hegel, dont nous parlions tout à l'heure, que vous connaissez peut-être, qui dit que la chouette de Minerve prend son envol au crépuscule. Minerve, c'est Athéna, et la chouette de Minerve, c'est la philosophie. Hein, la chouette. Et Hegel nous dit, la chouette de Minerve prend son envol au crépuscule. Donc, la philosophie, peut-être, n'est-elle pas toujours contemporaine des temps dont elle parle ? Peut-être il faudra poser cette question au professeur de philosophie de la fin du 21e siècle.
Leur dire,
alors que, ce siècle, quel a-t-il été ? Pour ma part, je ne le sais pas.
Au revoir Marianne Chaillant, merci d'avoir été avec nous dans un studio lointain dans le sud de la France. Alors je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Ainsi philosophait Amélie Nothomb, paru aux éditions Albin Michel. Merci, bon dimanche à vous.
Et Dieu dans tout ça,
sur la première.
Piochons à présent un mot dans notre grand dictionnaire des philosophies et des religions. Aujourd'hui, le mot sera « pensée ».
Oui, la pensée, Michel, et plus précisément la pensée chez les plus jeunes. Comment pensent nos enfants ? Martin Legros, vous êtes avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du Philosophie Magazine. Comment pensent nos enfants, donc ? Et pour aborder cette question, vous souhaitez, Martin, nous raconter une histoire personnelle.
Oui, comme de nombreux parents, il m'est arrivé d'être désarçonné par les réflexions parfois très philosophiques de mes enfants. Et l'une d'entre elles m'est restée en mémoire, c'était mon fils devait y avoir 3 ans, j'étais en train de travailler nuitamment sur un texte que je devais remettre absolument le lendemain, et je le vois débarquer à 3-4 heures du matin dans le salon, il s'installe sur le canapé, il m'observe, il m'interroge, lui explique que je dois écrire ce papier pour demain absolument, je le vois réfléchir, embêté par la situation, et soudain il me lâche cette formule qui m'est restée. Mais papa, si tu restes éveillé toute la nuit, qu'est-ce que tu vas faire de tes rêves quand ils vont venir ? Et cette formule m'est apparue assez éloquente et significative de la manière dont les enfants pensent. Pour mon fils, comme pour nombre d'enfants, le rêve n'était pas ce qu'il est devenu pour nous qui avons appris à le domestiquer par la raison, un phénomène intérieur, une production de notre esprit. Non, pour eux, c'est une réalité matérielle. C'est des esprits qui nous rendent visite chaque nuit. Et il faut faire une place à ces esprits si on veut qu'ils nous laissent tranquilles. Cette nuit-là, comme je n'avais pas accueilli mes rêves, mes esprits, les esprits étaient peut-être toujours là, tapis dans un coin de la pièce. Et les enfants pensent que de même que le rêve est dans la pièce, dans la chambre, la pensée n'est pas une voix intérieure et silencieuse. Elle est dans la bouche, comme ils disent. Elle est dans les oreilles. Elle se confond avec les mots qu'on prononce. Comme le rêve vient à nous, les mots sont déposés dans la bouche sous la pression des choses. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle est une chose parmi les choses que la pensée peut agir sur le monde. Voilà comment pensent les enfants, me révélait mon fils.
Et la philosophie, elle s'est toujours préoccupée de la manière dont pensent les enfants, Martin ?
Alors, longtemps, les philosophes, un peu comme dans ces peintures classiques, se sont représentés les enfants comme des adultes en miniature. On ne retenait d'eux que ce qui se dessinait en creux de la maturité. Il a fallu une petite révolution philosophique pour que l'enfant apparaisse non seulement comme un égal dont il faut respecter les droits, mais comme un être singulier dont il faut préserver la spécificité. C'est sans doute Rousseau qui était à l'origine de cette petite révolution, de cette découverte dans l'enfance. Dans l'Émile, il a cette formule très frappante: la nature veut que les enfants soient enfants avant que d'être homme. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous produirons des fruits précoces qui n'auront ni maturité ni saveur et ne tarderont pas à se corrompre. Nous aurons des jeunes docteurs et de vieux enfants, dit Rousseau. L'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres, et rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres, et j'aimerais autant exiger qu'un enfant eût 5 pieds de haut que du jugement à 10 ans.
Et les cours de philo pour les plus jeunes qui ont du succès en ce moment, ils tiennent compte précisément du mode de pensée de l'enfant ?
Ah, je crois que c'est justement la condition pour que la philosophie pour les enfants, vous le remarquez bien, qui est l'objet d'un développement et d'un engouement sans précédent, eh bien, c'est la condition pour qu'elle soit féconde. Rien ne serait pire que d'imposer aux enfants de 3, 6, 12 ans les méthodes que l'on délivre aux lycéens ou aux adultes. Ce serait non seulement le plus sûr moyen de les dégoûter sans doute de la philosophie, mais surtout de leur imposer une rationalité qui n'est pas la leur. D'ailleurs, les professeurs de philosophie pour enfants inventent d'ailleurs, sont formés pour cela, d'inventer des dispositifs singuliers pour faire émerger cette capacité à interroger qui nous est commune, mais qui s'exprime très différemment chez les enfants. Alors, plutôt que de leur proposer des concepts ou des définitions, on part de récits ou de contes dont on leur demande de formuler le sens. On les invite à, par exemple, dessiner leur portrait pour interroger la notion d'identité. Ou on part des questions qu'ils se posent vraiment, comme par exemple « J'étais où avant de naître ?» ou « Est-ce que le premier homme avait une maman ?» Voilà des questions qu'ils se posent et qui permettent de remonter vers la question de l'origine, mais à partir d'une situation concrète. À partir de là, on peut les initier au dialogue, à l'interrogation, à l'argumentation, mais toujours en partant de la manière dont eux pensent et sans avoir leur donner le sentiment qu'on détient un savoir, qu'on a une réponse aux questions qu'ils se posent. C'est eux qui doivent les formuler et trouver éventuellement la manière de les reformuler. Si tous les enfants sont branchés sur la pensée, ils ont besoin d'être orientés dans cet espace. Et comme mon fils qui m'invitait à accueillir davantage mes rêves, il nous ramène ainsi à la dimension vivante et concrète des idées.
Merci à vous Martin pour cet éclairage, et si vous souhaitez en savoir plus, vous êtes invité à découvrir le dossier sur la philosophie pour les enfants que vous propose le Philosophie Magazine de ce mois de mai. Et voilà Michel.
Merci Pascal, on vous retrouve la semaine prochaine. C'était Et Dieu dans tout ça, merci de nous avoir accompagnés. Si vous souhaitez réécouter ce numéro, rendez-vous sur notre plateforme Ovio. Bientôt 14h, les infos et Nicolas Blanmont pour le classique du dimanche. Passez un bel après-midi.
La culture populaire vaut plus que le crédit dans lequel on la tient injustement.
Ne plus jamais souffrir du calcaire avec Minimax. Découvrez le taux de calcaire de votre commune sur minimax.be. Minimax.
Soit. 60% des sacs, tous les jours, et du verre, et ils pourraient comprendre. Ils diraient, c'est lourd, c'est dangereux.
Et si vous étiez à leur place? Les opérateurs de collecte des déchets travaillent pour vous. Pour leur sécurité, soyez attentifs au contenu et au poids de vos sacs poubelles. Un message de la Wallonie, Go4Circle et la Copidec.
Jamais vous ne demanderiez à un banquier de sécuriser votre habitation.
Donc, le soir, on rentre la voiture dans un énorme coffre-fort. Ah ouais.
Faites sécuriser votre habitation par un professionnel. Avec Securitas Home, l'expertise de Securitas arrive maintenant chez vous. Securitas Home, une habitation sûre et intelligente.
Info sur securitashome.be.
On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché.
Moi, c'est pour leur semaine complètement dingue.
Ah, bien vu! Le colis barbecue, par exemple. 3 kilos de viande achetée, c'est 4 kilos gratuits. Et ce n'est pas tout. À l'achat de 250 grammes de jambon à l'os, 500 grammes offerts.
Attendez, mais alors je reçois plus que ce que je n'achète?
Dingue, non? Intermarché, avec vous pour une vie moins chère. Ouvert dimanche et jours fériés.
Il est 14h.